nombreuses. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous, chers auditeurs.
Comment allez-vous Laurent? Vous nous avez manqué la semaine dernière. Heureusement, vos parents ont vous ont envoyé un mot d'excuse pour excuser justement votre absence.
Je ne serai pas puni alors.
Non, vous avez de la chance.
Ça va très bien, écoutez, un peu plus vieux sur Toulouse, hein, donc vu le prix de l'essence, il vaut mieux pédaler, ça coûte moins cher.
Oui, c'est vrai. Et autant que faire se peut, le faire entre les gouttes.
Exactement, oui.
Ouais, c'est
on
ça.
On se réchauffe ici à la radio.
Et on se réchauffe avec vous, humaine. Auditeurs chéris, qui nous écoutez.
Exactement.
Avec fidélité, et ce, jusqu'à 20h tous les mercredis. Dites-nous, Laurent, ils savent que vous allez conseiller des films à voir à la télé, nos auditeurs. Combien ce soir?
J'ai sélectionné 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Donc on passe une bonne soirée du cinéma, voilà, de se détendre un petit peu avec cette actualité très lourde.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Ouais. Et y a aussi, on peut éteindre tous nos écrans, hein, comme je le dis chaque fois, il y a un conseil de lecture, mais on peut les rallumer parce qu'il y a un conseil Blu-ray que vous donnera Guillaume.
Ah, mais ça en fait des choses. Voilà. De belles
infos. C'est gratuit, infos. Profitez-en.
Oui, oui,
des conseils,
oui, oui,
voilà.
Oui. Restez bien là, restez là, fidèles jusqu'à 20h. Vous retrouverez également notre spécialiste de la mécanique cinématographique, à savoir Guillaume Sidom. Son retour de manivelle. D'abord, bonsoir Guillaume.
Eh bien, bonsoir Louis-Marie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous et à toutes.
Alors, votre retour de manivelle, j'anticipais. Ah. J'ai tellement envie de savoir.
Alors là, vous
faites-nous
avez,
rêver.
Vous avez 4 heures pour composer la vérité en morceaux.
La vérité en morceaux. Et on a 4 heures.
C'est ça.
Autant,
à peu près.
Autant de pages qu'on veut.
Ah oui, moi j'écris beaucoup. vous
j'écris
savez,
gros,
Marie,
surtout.
J'écris gros, donc.
Oh, oui,
il y a
oui.
Beaucoup, beaucoup de pages.
Tant mieux. Mais ne déprimez pas trop nos auditeurs.
Oui.
Il y en a qui n'ont pas la plume facile. On est,
oui,
on
c'est
pense,
vrai.
Mais peu importe. Rappelez-nous le sujet.
La vérité en morceaux.
Ah, bon, alors c'est noté. En parlant de vérité, je ne sais pas s'il y a un rapport, non, il ne doit pas y en avoir un vraiment avec le tribunal des séries qui ouvre encore une fois ce soir avec notre homme de loi, Grégory Combe, qui une nouvelle fois sera avocat. Il ne va dire que du bien de qui? Eh bien de A Knight of the Seven Kingdoms, à savoir un des spin-offs de Game of Thrones, le nouveau spin-off, puisque là, il s'agit d'un chevalier.
On rappelle ce qu'est un spin-off?
Oui,
oui, oui, oui.
Dites-le.
Vous avez raison, parce que les mots anglais, là...
Allez-y.
Oui. Ben, un spin-off, c'est quand on prend un personnage d'une série pour en faire une autre.
J'allais le dire.
Parallèle, ou antérieur, ou postérieur. Le plus souvent, les spin-offs sont antérieurs. Comme le son, là,
oui.
Comme les celui-là, ça se passe des années, voire des siècles avant Game of Thrones. La fameuse série que tous les auditeurs connaissent. Et donc, Grégory Combe nous ouvrira son tribunal des séries pour nous parler donc de ce nouveau spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, et qui est à voir sur Canal+. Qu'y a-t-il d'autre ce soir dans le panier de l'ouvreuse? Eh bien, elle va scruter l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin, et puis il y aura les reprises sur le grand écran, avant les vôtres, dont vous venez de nous parler, Laurent. Et puis, il y aura bien sûr des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations et autres expositions aussi, quand il y en a, qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Alors, on vous l'a répété, et je vous le répète encore une fois, on est ensemble jusqu'à 20h. Bon début de soirée avec nous. Bon, et vous êtes témoin aussi de tout ce qui se passe, puisque je n'avais pas coupé mon micro alors que j'ai parlé à mes petits camarades. Donc vous avez profité d'une conversation qui aurait dû vous échapper, tant pis. Tout de suite, installez-vous confortablement. C'est pas vraiment un film, c'est une bande-annonce. Écoutez bien et lisez les sous-titres. Ça dit à peu près que c'est l'histoire d'un meurtre et de quatre points de vue différents, de quatre témoins et de leurs quatre façons d'avoir vu ce meurtre et leur angle de perception. C'est un peu confus tout ça, mais justement, Guillaume est là pour éclaircir le propos, le mien, qui est pour le moins obscur.
Je vais essayer donc pour Rashomon, réalisé en 1950 par le maître japonais Akira Kurosawa, musique signée Fumio Ayazaka, que vous entendrez à la fin de ma chronique, un véritable monument du 7e art, un film qui a bouleversé l'histoire du cinéma. Une référence incontournable, au point de donner naissance à une expression, l'effet Rashomon, je vais y revenir. La bande-annonce, vous en parliez, Louis-Marie, une histoire à quatre voix qui raconte leurs quatre versions de l'enfer. Et le Japon médiéval, près de la porte de Rashomon, aux abords de Kyoto, la pluie tombe sans relâche dans une forêt. Un samouraï est retrouvé mort et sa femme affirme avoir été agressée par un bandit jusque-là. Vous me diriez rien d'exceptionnel, sauf que plusieurs témoins racontent l'événement et chacun va livrer donc une version totalement différente. Le bandit, la femme, un témoin et même le samouraï lui-même proposent leur propre récit. Alors, qui dit la vérité? C'est toute la force de Rashomon. Kurosawa transforme un simple fait divers en une réflexion vertigineuse sur la nature humaine. Notre mémoire est-elle fiable? Nos récits ne sont-ils pas toujours influencés par notre ego, notre honte ou notre désir de paraître sous un meilleur jour? Peut-on vraiment connaître la vérité? Sommes-nous tous prisonniers de notre propre regard sur les événements?
Visuellement aussi, ce film est un choc esthétique.
Une atmosphère presque hypnotique, la caméra se promène dans la forêt, les rayons du soleil traversent les feuillages, la pluie qui tombe sur la porte de Rashomon crée une atmosphère presque mythique. Pour l'époque, la mise en scène est incroyablement moderne, chaque version de l'histoire semble appartenir à un monde légèrement différent, mais au-delà de son intrigue, Rashomon reste un film profondément humain. Pourquoi ? Parce qu'il nous parle de mensonges, d'orgueil, de honte et de notre besoin de donner un sens à nos actes. Ce qui fascine ici est la façon dont le récit interroge lui-même sa propre intégrité. Cette mise en parallèle de points de vue différents oblige la narration en effet à se régénérer sans cesse. Mais l'héritage de Rashomon va encore plus loin. Le film a donné naissance à une expression très utilisée aujourd'hui. Je vous l'ai dit, l'effet Rashomon, qui désigne donc une situation où plusieurs personnes vont donner des versions contradictoires d'un même événement, une structure qui évoque évidemment le récent dernier duel de Ridley Scott. Il n'a toutefois pas fallu attendre si longtemps pour retrouver l'effet Rashomon à l'écran. Citons par exemple l'ultime Razzia de Stanley Kubrick ou Basic de John McTiernan. Martin Ritt, lui, fera même un remake du film avec Paul Newman, baptisé L'Outrage en 1964. Mais revenons à la musique de Fumio Ayazaka que vous allez entendre dans quelques instants, si présente et si marquante à l'écran. Et l'un des exemples les plus marquants d'utilisation d'un thème classique dans un film de Kurosawa se trouve bien dans Rashomon. Pour accompagner les différentes versions des témoins du meurtre, le réalisateur demande à Fumio Ayazaka de réécrire le Boléro de Ravel, une œuvre que Kurosawa a fait écouter dans son intégralité à l'équipe du film lors du premier jour de tournage, car dans Rashomon, tout comme dans le Boléro de Ravel, il est donc question d'un thème et de ses variations, mais aussi d'une tension qui va crescendo. À sa sortie, le film remporte donc le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1951 et ouvre les portes du cinéma japonais au monde occidental. Plus de 70 ans après sa sortie, Rashomon reste une œuvre fascinante, d'une modernité frappante. Et à l'heure des réseaux sociaux où chacun possède sa propre version des faits, justement, le film nous rappelle une chose essentielle. La vérité est parfois moins simple qu'elle n'en a l'air. Elle n'est peut-être jamais unique, et lorsque la pluie cesse enfin sur la porte de Rashomon, il ne reste peut-être qu'une seule certitude. Parfois, ce qui révèle le mieux l'humanité, ce ne sont pas les faits, ce sont les mensonges que nous racontons pour les supporter. À retrouver donc ce dimanche 15 mars, 17h au Pathé Wilson de Toulouse, dans le cadre de la Galaxie Kurosawa, visible donc jusqu'au 15 mars prochain en partenariat avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la Cinémathèque de Toulouse.com, également en Blu-ray et DVD chez Potemkin. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Yasaka a parfaitement respecté les consignes du réalisateur Akira Kurosawa. Il l'a bien réarrangé avec ce côté japonais, le boléro de Ravel, pour mieux illustrer les différents témoignages de chacun des protagonistes de ce film. Assez impressionnante du boléro de Ravel, version japonisante pour le Rashomon d'Akira Kurosawa, qui fut, mais Guillaume vous l'a signalé, le premier film japonais à obtenir un prix, un grand prix, le premier prix d'un festival de cinéma, de films de cinéma international européen. C'était à Venise. On jette un coup d'œil à l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Vous êtes aidé par l'ouvreuse, bien sûr.
Bien sûr. À l'affiche cette semaine, Il Maestro, le nouveau film d'Andrea Di Stefano, avec Pierre Francesco Favino et Giovanni Ludeno. Année 1980, un ancien joueur de tennis devient l'entraîneur d'un jeune talent timide, écrasé par les attentes de son père. Pour son quatrième long métrage, Andrea Di Stefano, qui l'on doit l'excellent Dernière Nuit à Milan, a choisi d'avancer à rebours du fameux dogme, vous savez, selon lequel il faut accrocher le spectateur d'emblée, sous peine de le perdre à jamais, et prend lui le temps de dévoiler les multiples facettes d'un récit de plus en plus riche, attachant et poignant au fil des minutes. L'entame d'Il Maestro, donc situé dans les années 80, s'inscrit dans tous ses films de sport centrés sur les rapports père-fils et la manière dont les premiers vivent l'ascension des seconds par procuration. C'est le cas de Felice, donc ce jeune tennisman que son paternel ne voit d'ailleurs qu'au sommet, hein, avec les Borg ou les McEnroe de l'époque, et s'en donne les moyens en engageant donc Raoul, une ex-star de la petite balle jaune, comme entraîneur. Et c'est l'arrivée de ce coach, matamor aussi irrésistible que tête à claque, qui va entraîner le film ailleurs. D'abord par le choc des contrastes qu'il crée avec le réservé Felice, puis par l'effet miroir qui se dessine entre les deux au fur et à mesure que les fêlures de Raoul passent de l'ombre à la lumière. On est donc entre le drame et la comédie, et Il Maestro devient alors une déclaration d'amour à tous ceux qui ont visé trop grand, aux perdants, sans panache. Et il y a un peu du Little Miss Sunshine dans ce film, vous savez, cette petite fille qui se réveille Miss, et puis tout va s'effondrer sur la fin. Une espèce d'anti-héros comme ça, trop imparfait pour occuper le devant de la scène. Mais le maestro, le vrai, ben, c'est surtout Pierre Francesco Favino, qui est vraiment un excellent acteur, aussi saisissant dans la flamboyance que dans la noirceur. Guillaume, vous, le sosie d'André Agassi, vous avez pris votre raquette et vous avez rencontré, vous avez rencontré Andrea Di Stefano, qui n'est pas un footballeur, mais bien un réalisateur.
Oui, en décembre dernier, à l'occasion des rencontres du cinéma italien, j'ai rencontré un homme délicieux qui, vous allez l'entendre, parle un français impeccable. Alors, Andrea Di Stefano, quel est le message de ce film ?
Je voulais faire un film universel dans ce sens. Dans le sens que, apporter tout le monde à voir cette histoire comme, oui, tu es témoin de ce moment magique où on rencontre nos maîtres, les gens qui nous changent la vie, d'accord. Et c'est ça l'histoire. C'est la photographie de ce moment. Et c'est un moment, parce que surtout, nous, on change quand on rencontre le maître, mais le maître, il change aussi quand on nous rencontre. Parce que quand ils voient la sublimer leur, figure qui nous voit grandir, eux aussi se sont avec une puissance qui lui change la vie. En fait, les personnages de Favino, il a le courage, grâce à l'innocence de cet enfant, d'aller à regarder les erreurs de son passé.
Le message est donc clair, mais alors comment naît l'inspiration de votre écriture ?
Dans l'écriture, je me base beaucoup sur les classiques. Je sais que ça marche dans les textes classiques, à partir de Shakespeare pour arriver à Pinter ou à Fellini. C'est toujours la même chose. Tu répètes les choses deux fois, la troisième, ça explose.
Pourquoi le choix de Pierre Francesco Favino, justement, dans le rôle de Raoul Gatti, comme l'a précisé Laurent, comme entraîneur de tennis et ex-champion brisé?
J'ai tourné avec des grands acteurs internationaux. Moi, je pense que Favino, c'est un des 4-5 plus grands acteurs du monde. Il faut le mettre en perspective avec les plus grands au monde. Lui, il a une chose, il est un performer. Il a fait beaucoup des étapes dans sa carrière avec des petits films. Il a grandi, hein. Il a construit une technique incroyable. Et après, il y a un cœur... une émotion, c'est un instrument, c'est un Stradivari, c'est une émotion tellement précise quand il fait ses personnages que c'est surprenant.
Pierre-Francesco Favino, qui joue donc Raoul Gatti, prend en charge Felice, jeune prodige du tennis, vous l'avez dit Laurent. Quelle est la nature justement du rapport avec le père du garçon et de la relation avec son père de substitution en la personne de Raoul ?
Le rapport avec les... Le père, c'est un rapport avec un, même si le père est un personnage très chaleureux, mais c'est un rapport avec un monolithe. Et dès que l'enfant, il peut regarder dans les yeux d'un autre homme, et c'est pas parfait, c'est fragile, c'est... Mais il trouve aussi son histoire. Si une chose, j'espère que les gens, quand ils sortent du cinéma, ils sortent avec une émotion, c'est d'être positif, qu'un jour ils vont rencontrer quelqu'un comme Raoul Gatti, ou quelqu'un comme Tiziano, quelqu'un que... Ça les inspire. Parce que dans un rencontre, il y a toujours de l'inspiration.
Andrea Di Stefano ne propose donc pas le classique récit victorieux du sport, mais un portrait sensible de la défaite comme expérience humaine. Il signe un récit émouvant sur la fragilité, la transmission. Le film mêle humour, mélancolie et authenticité. Favino bouleverse en entraîneur blessé dans un film humaniste et sincère, visible donc à l'ABC à Toulouse et au Régent à Saint-Gaudens. Revue de presse sur le film, Laurent.
Oui, cinématiseur bien aimé, un road movie raconté à travers les yeux d'un enfant qui se transforme en un buddy movie bouleversant. Pareil pour Abus de ciné, récit d'émancipation, autant auteur de jeunes ados que d'adultes blessés, il maestro évite judicieusement le drame à outrance, conservant son équilibre avec des scènes de comédie. Même topo pour La Croix, la comédie à l'italienne séduit par son inattendu, confrontant ses héros aux désillusions plutôt qu'aux victoires. Petit bémol par contre pour Libération, sous la plume de Lelo Battista, un film balourd dans la comédie et très balisé dans le drame. Même ton pour Télérama, sous la plume de Jacques Maurice, un film caricatural au scénario brouillon. À l'affiche aussi cette semaine, beaucoup moins gai, on peut voir Ce qu'il reste de nous, de Sherian Dabis. De 1948 à nos jours, trois générations d'une famille palestinienne portent les espoirs et les blessures d'un peuple, une fresque où histoire et intime se rencontrent. Alors on suit un ado qui s'appelle Nor. Il poursuit son meilleur pote pour récupérer ce que ce dernier lui a piqué. Une scène banale comme ça au cœur d'une ville et une situation qui ne le sont pas, car l'action se déroule en 1988 à Jaffa et le duo rejoint une manifestation contre l'intifada. Un soldat israélien sort son arme et le coup va partir. Le plan suivant montre face caméra la mère de Nor. Vous savez peu de choses sur nous, ce n'est pas grave, je ne suis pas là pour vous accuser mais pour vous dire qui est mon fils et pour que vous compreniez, je dois vous raconter ce qui est arrivé à son grand-père. Ces mots donc annoncent ce qui va suivre. Donc, c'est vraiment un voyage à travers les différentes temporalités. On est en 1948, en 1978, en 1988 et en 2022 pour explorer donc les causes et les conséquences de cet instant tragique. Une fresque quand même de 2h30 où Sherian Dabis raconte donc l'histoire de la Palestine à travers celle d'une famille qui génération après génération a subi les dommages collatéraux de l'occupation israélienne. Dialoguant avec des films comme Bye Bye Tibériade ou Palestine 36 d'Abis, à qui l'on doit l'excellent America, qui est fille d'un Palestinien d'ailleurs, réussit ici, malgré la complexité du sujet, un film tout sauf programmatique, tant dans sa construction scénaristique que dans les réactions de ses personnage. Là aussi une revue de presse positive pour avoir à lire. Que faire après la mort de son enfant, surtout lorsque celui-ci a été probablement tué par un autre jeune? La réponse que donne la cinéaste est sidérante d'amour. Positif aussi pour France Info Culture, sous la plume de Laurent Souhaud. S'il est politique, le film est aussi un spectacle qui emprunte au code des séries, avec un montage qui alterne les séquences hyper rythmées, immersives et d'autres beaucoup plus posées. Gros bémol pour Le Monde. Le film joue pour se faire, non sans une certaine naïveté, la carte du mélodrame et du romanesque, mais ne parvient pas pour autant à soustraire ses personnages de leur statut de porte-drapeau. À l'affiche aussi cette semaine, on pourra voir Le Crime du Troisième Étage, le nouveau film de Rémy Besançon, avec Laetitia Casta, Guillaume Gallienne et Gilles Lelouch. On peut voir Victor comme tout le monde, de Pascal Bonisère à l'ABC Toulouse, avec Fabrice Lucchini et Chiara Mastroianni. On peut voir Les Cadors de Jérémy Ferrari avec Éric Judor au cinéma Pax Lourdes. C'est l'histoire d'un jeune homme dont sa mère lui a dit qu'il était le fils de Muammar Kadhafi. Et donc il va partir à la recherche du trésor enterré de Kadhafi avec deux énergumènes. Voilà, une comédie assez savoureuse. Apparemment, c'est pas trop mal selon les critiques. C'est une belle surprise, le nouveau film de Jérémy Ferrari. On peut voir aussi Orphelin de Laszlo Neves, un film hongrois. On peut voir Le Testament d'Anne Lee de Mona Fassewald, histoire d'une prophétesse très très passionnée. Et puis pour Grégory, on a pensé à lui hein, cette semaine, puisqu'il y a deux films d'animé, Scarlett et l'éternité de Mamoru Osada et Planète au pluriel, un animé de Mamoko Seto qu'on peut voir au CGR Le Paris Montauban ou à l'ABC à Toulouse. Yeah, cantaba.
avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu. Da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
Incroyable morceau de Franco Battiato, Cucurucu, qui cartonna en 1981, un morceau idéal, extrait de la bande originale du film Il Maestro d'Andrea Di Stefano, un moment important dans le film, le moment où le maître et l'élève enfin ont compris, un a trouvé la paix, et l'autre jouera pour le plaisir, et on danse avec eux sur ce court de tennis abandonné.
Le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu.
Il fallait aller jusqu'au bout pour apprécier les citations de Franco Battiato. Et à l'époque, en 81, il a cité ses illustres chanteurs qui étaient les Beatles ou encore Bob Dylan, puisqu'il y a Lady Madonna, Like a Rolling Stone, ouais. Et puis plein d'autres encore, vous les avez reconnus. Ouais, il ne cite que les paroles, parce que sinon, la musique, c'est la sienne. Ouais. Et tout de suite, on retrouve notre homme de loi des séries qui ouvre à nouveau son tribunal, mais pour plaider la cause de Night of the Seven Kingdoms, le spin-off de Game of Thrones. Grégory Com.
Je déclare l'audience ouverte.
Vous le savez, j'ai une relation particulière avec l'univers de Game of Thrones et aujourd'hui, je vais vous aborder un nouveau spin-off de la série principale, A Knight of the Seven Kingdoms, un chevalier des sept royaumes, spin-off à Game of Thrones, le deuxième après House of the Dragon. Je me suis beaucoup inquiété sur cette série. Elle est adaptée d'une nouvelle que j'aime particulièrement, mais j'ai eu peur qu'elle tombe dans les travers habituels de cet univers en série. La série initiale, Game of Thrones, je l'ai adorée et je l'ai détestée sur la fin avec un final pitoyable du niveau de celui de Lost. House of the Dragon, j'ai adoré la saison 1 et j'ai commencé à détester la saison 2 qui tombait dans les travers habituels de cet univers, choqué pour choqué, sans rien raconter derrière. Au final, quand cette série commence, je me rends compte que elle est dans les mêmes travers que les autres. Une scène scatologique au départ inutile, une nudité imposée dans l'épisode 2, je me suis dit, bon, on est dans la provoque pour la provoque, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai voulu pousser plus loin, car je me suis dit, le récit semblait intéressant. Et au final, heureusement, car c'est une des meilleures séries que j'ai vues de ces 6 derniers mois, voire de cette année. Pourquoi ? En fait, elle va raconter l'histoire de Duncan le Grand, qui est appelé le Grand parce qu'il est grand, et de l'œuf, son écuyer, qui est appelé l'œuf parce qu'il est chauve. C'est l'histoire, en fait, d'un chevalier errant que personne ne connaît, disciple d'un maître que tout le monde a oublié. Et il va souhaiter participer à un grand tournoi où la famille régnante Targaryen a un rôle assez important. Mais lui, en fait, il ne voit pas cet aspect politique. Nous sommes dans une grande période de paix. Ça se passe entre House of Dragon et Game of Thrones. Et donc, il n'y a pas de guerre, en tout cas, à l'endroit où se déroule la série. Et donc, les chevaliers, pour illustrer leur héroïsme, vont dans les tournois. Et cette série va nous poser cette question. Qu'est-ce que l'héroïsme ? Qu'est-ce que le code moral de la chevalerie ? Et c'est là où c'est intéressant, parce que dans un monde aussi dur que Game of Thrones, avoir un personnage aussi pur et fort que Duncan le Grand est une bouffée d'air frais. Moi, j'en peux plus d'avoir des héros torturés de chez torturés, d'avoir des héros anti-héros qui font le mal. Alors, à une époque, c'était provoque, maintenant, c'est la norme, c'est le cahier des charges. Et re-avoir un héros un peu niais, bon et bienveillant, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'en fait, c'est devenu novateur. Derrière, Duncan va essayer de participer à ce tournoi royal, mais avec toutes les difficultés de prouver qui il est et est-il digne. Et il se rend vite compte que même si puissants et misérables peuvent jurer sur le code de la chevalerie, quand on est un chevalier errant, on n'est pas au même niveau qu'un prince Targaryen. Et c'est ça aussi qui va être intéressant. Est-ce que la noblesse se trouve dans le chevalier errant sans le sou ou dans le prince richissime, et peut-être se trouver aux deux endroits? C'est une des questions que pose la série. L'autre point, c'est sa réalisation qui est assez exceptionnelle. Elle tourne autour du tournoi, et l'idée en fait d'avoir cette unité de lieu autour du tournoi où on a véritablement tout un décor qui montre que c'est pas juste les joutes de chevalier, c'est les soirées, c'est les échanges entre les personnes qui sont importantes. On est dans quelque chose de très bon et de maîtriser d'un niveau cinématographique. Donc, au final, cette série, elle réussit son pari. Elle amène une personne extrêmement bienveillante dans le monde violent de Game of Thrones, et elle nous permet de regarder ce monde par son prisme. Et elle nous interroge. C'est quoi la noblesse ? C'est quoi l'héroïsme ? C'est là où cette série, elle réussit son pari. Sa réponse, qui est donnée à la fin de la saison 1, elle est assez magistrale. Et elle montre à quel point, justement, il est essentiel aujourd'hui dans les récits d'avoir à nouveau des personnages un peu niais, des personnages bienveillants et des personnages qui ont envie de se dépasser, au final, non pas pour la gloire, mais pour leur prochain. Donc, vous l'avez compris, votre temps est précieux et je vous conseille clairement de le dépenser devant A Knight of the Seven Kingdom. Vous ne le regretterez pas. Je vous remercie.
Ça y a plu. Et ça va nous plaire, et ça va rattraper sans doute cette dernière saison pitoyable de Game of Thrones. A Knight of the Seven Kingdoms, à voir donc sur Canal+. Dan Romer a composé la bande originale de la série A Night of Seven Kingdoms. Ah, j'arrive pas à le dire. Kingdoms. Ah, quand même, Seven Kingdoms. Ah, il y a un S. Et oui, il y en a sept royaumes. C'est à voir cette série sur Canal+.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Salut, Lloyd. J'étais absent, mais ce soir, me revoilà.
Bonsoir, Monsieur Torrance. Heureux de vous voir.
Heureux d'être de retour, Lloyd.
Qu'est-ce que vous prendrez ?
De quoi reprendre du poil de la bête.
Bourbon et glace ?
Ça me va très bien.
Pas, Monsieur Torrance.
Comment ça, Lloyd ?
Votre argent ne vaut rien ici.
Nous, on sait pourquoi son argent ne vaut rien ici. Et vous savez, où est cet ici, messieurs ?
Alors oui, loin, là-haut, dans les montagnes, sous la neige.
Du Colorado. Donc, oui. L'hôtel s'appelle Overlook.
Overlook.
Et il y a une chambre où il ne faut surtout pas aller.
Oui, puis il y a un cimetière indien, pas loin, des esprits qui seraient là. Oui.
La chambre 237 de l'hôtel Overlook, qui est gardée pour l'hiver parce qu'il est fermé. Impossible d'y accéder avec la neige. Et donc, un écrivain alcoolique, vous l'avez compris, et en panne d'inspiration, a trouvé ce boulot pour l'hiver. Il est accompagné par sa femme et son fils. Et petit à petit, il va sombrer dans une espèce de délire paranoïaque. À noter que son fils a un don de voyance. Il a le
Shining.
Eh oui, c'est le titre du film de Stanley Kubrick.
Etrem. Les petits doigts.
Eh oui. Le film sorti en 1980. Un des rares films où la BO a été composée spécialement pour le film. D'habitude, vous savez, Stanley Kubrick prenait toujours des musiques existantes, et en particulier des musiques du répertoire
Barry Lyndon, par exemple,
classique, baroque pour Barry Lyndon. Ouais. Et là, c'est Wendy Carlos qui a écrit la musique de Shining.
Et je viens de me rendre compte que le film a mon âge. 46 ans.
Oh là 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 là. Donc vous n'y étiez pas à l'Overlook Hotel.
Exactement.
Vous n'étiez pas là le jour,
pas
de,
le
sa
jour
sortie,
de la sortie. Non.
Alors, sans attendre, revenir, pardon, au jour de la sortie, vous pourrez voir le film demain, jeudi 12 mars à 19h30 au cinéma Pâté-la-Bêche dans sa version originale. Sinon, demain aussi, vous resterez au Pâté-la-Bêche pour aller voir la séance de 22h. Et que s'y passe-t-il à la séance de 22h ? Eh bien, il y a un film de John Woo qui a été le film déterminant, qui a donné naissance à un genre unique, une influence considérable même dans le cinéma hongkongien puis à Hollywood, c'est le Syndicat du crime. À découvrir donc, on ne vous en dit rien, vous ne le connaissez pas, foncez le voir, vous ne le connaissez, retournez le voir. Donc demain, jeudi 12 mars à 22h, et c'est aussi en VO et c'est aussi au Pâté-la-Bêche. Sinon, vous voudrez voir la suite, parce qu'il y a une suite, le Syndicat du crime 2, sorti un an après seulement le premier, qui était sorti en 86, toujours signé John Woo. Il s'était un peu crêpé le chignon avec Tsui Hark. Ils n'étaient pas d'accord quand ils ont monté le film. Le film, le premier, et donc après le divorce a été consommé et il a fait le syndicat du crime de tout seul, John Woo. C'était donc en 87 avec les mêmes personnages. Évidemment, il y a eu des changements, des évolutions, et donc vous irez voir cette suite lundi 16 mars à 22h, toujours au Pâté-la-Bêche. We'll be right back. Master a signé la bande originale de ce film signé Terry Gilliam, mais il est aidé au bandoneon par un certain Astor Piazzolla.
N'est-ce pas le générique de Rendez-vous avec X
aussi,
signé Patrick Penneau?
Mais c'est surtout la musique du film L'Armée des 12 Singes de Terry Gilliam. Ce film qui est en fait une adaptation libre, hein, il faut bien le dire, mais d'un court-métrage français, La Jetée de Chris Marker. L'histoire, vous savez, l'action se déroule dans un futur où la surface de la Terre est inhabitable pour les hommes à cause d'un virus mortel qui a tué tout le monde. La majeure partie de la population mondiale, ceux qui restent vivent
sous terre.
Et c'est un homme est envoyé dans le passé parce qu'ils arrivent à trouver un moyen, un voyage dans le temps, dans le passé,
Bruce Willis,
incarné par Bruce Willis, pour arriver à trouver des informations sur le virus et à savoir comment il a été répandu et pour essayer d'empêcher ce virus mortel d'agir sur la population mondiale. Il y a au générique de ce film Bruce Willis qui interprète le rôle principal, donc Madeleine Stowe qui sera un personnage qu'il va embarquer.
Le docteur qui va comprendre Bruce Willis parce que quand il dit qu'il vient du futur et tout, il prend pour un dingo, tout le monde commence à le croire et finalement il a raison.
Et Brad Pitt,
Dan Timbré lui aussi,
fils
d'un milliardaire,
Christopher Plummer, et puis il faut bien un méchant. Et le méchant, c'est David Morse. L'Armée des 12 Singes, toujours au pâté la Belge. Ils en ont des belles reprises cette semaine. Dimanche 15 mars à 19h15. Et puis, pour en finir avec le pâté la Belge, avant de...
On changera de pâté après,
American Bluff. C'est un film signé David O. Russell qui est inspiré, en fait, vaguement d'une opération du FBI qui avait été nommée à l'époque Abscan, qui a eu lieu dans les années 70, enfin fin des années 70, début des années 80. Et c'est l'histoire de deux escrocs, incarnés par Christian Bale et Amy Adams, qui sont contraints par un agent fédéral, Bradley Cooper, de mettre en place une opération d'infiltration pour coincer des politiciens corrompus. Voilà ce que c'est American Bluff. Et aux États-Unis, ça existe, lundi 16 mars 21h en VO au cinéma Pathé la Belge. Au Pathé Wilson, vous irez voir le film de Baz Luhrmann, Gatsby le Magnifique. Bon,
j'ai du mal avec Baz Luhrmann, c'est coloré, ça va sans valeur,
moi j'aime bien celle avec Robert Redford et Mia Farrow, mais bon, il y a celle-là aussi, l'histoire de Gatsby, qui est en fait une réinterprétation, autrement dit adaptation, du roman de Scott Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, qui avait été publié en 1925. Et le film a fait l'ouverture du Festival de Cannes 2013. Il était hors compétition. Paddy Wilson, c'est en VO, lundi 16 mars à 19h30. Et puis, un film d'animation de 1954. Alors,
ils vont pas tout
comprendre. C'est La Ferme des Animaux, adaptée George Orwell.
Bien sûr.
On va pas rentrer dans le détail puisque vous savez qu'au départ, la nouvelle d'Orwell avait été une commande de la CIA elle-même, qui devait avoir des fins propagandistes dans le cadre de l'opération Mockingbird. Et oui, ça s'appelait comme ça. Alors on est, vous l'avez dit, en 48, donc c'est la guerre froide. Et il fallait focaliser la corruption sur les animaux représentant le communisme. Et ceux qui représentaient le communisme, c'était les cochons dans la ferme des animaux. Et puis, alors que ils sont plus touchants, les représentants du capitalisme, c'est les humains. Voilà. Après, allez voir le film, parce que
le film est réussi.
Orwell...
Il arrive à bon port.
Oui, oui.
Exactement.
J'en ai fait une chronique et le film, je trouve très, très réussi.
Oui. Et à découvrir...
Avec ses règles, tous les animaux doivent, vous savez.
Exactement. Et il y avait l'affiche à l'époque avait, alors je vais pas vous le faire en anglais tout à l'heure avec Kingdoms, j'ai eu tous les problèmes.
Il faudra reprendre des cours.
Sur l'affiche, le slogan c'était traduction littérale, vous rirez beaucoup et vous pleurerez un peu. Tout est dit. Utopia Borde Rouge pour la ferme des animaux, et ils disent dès 7 ans peut-être. Sinon, il y a toujours la galaxie Kurosawa, mais notre ami Guillaume Sidom en a déjà parlé. Les reprises sur le petit écran, c'est avec vous, Laurent.
Oui, le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir, mercredi, sur Arte, à 20h55, avec Comme un avion de Bruno Podalydès, avec les frères Podalydès, Sandrine Kiberlin et Agnès Jaoui. L'histoire de Michel qui se découvre une nouvelle passion pour le kayak, après s'en être fait, comme vous Guillaume,
oui, tout à fait.
Vous ramez un peu, après s'en être fait livrer un et avoir appris bien sûr les rudiments, il décide d'embarquer pour une virée en solitaire. Bruno Podalydès trouve une fois de plus le ton juste avec cette très jolie comédie tendre et au ton doucement décalé. Jeudi sur France 4 à 21h, ce sera Darling de Christine Carrière avec Marina Foïs et Guillaume Canet. Histoire de Catherine, une ado au physique ingrat qui vit dans une ferme en Basse-Normandie avec ses parents, jamais à court d'arguments pour se moquer d'elle. La boulangère du village l'engage comme apprenti et lui redonne espoir. Portrait saisissant d'une femme blessée, incarné avec justesse par Marina Foïs dans son rôle sans doute le plus fort. Et puis samedi sur France 4 à 21h, Passe au genre de Lucas Bellevaux, histoire de Clément, un prof de philo qui est muté à Arras, une ville qu'il considère comme un véritable éloignement de son univers parigo. Il croise le chemin de Jennifer, une coiffeuse pétillante et pleine de vie. Lucas Bellevaux signe une très belle adaptation du roman de Philippe Villain, porté par les épatants Loïc Cobbery et la regrettée Émilie de Ken. Dimanche, Arte 21h, on pourra revoir Blood Diamond d'Edward Zick avec Leonardo DiCaprio. Nous sommes en 1999, la Sierra Leone est plongée dans une guerre civile dévastatrice et Salomon, lui, est forcé de travailler dans les mines de diamants. Il parvient à découvrir un diamant rose d'une rare beauté qu'il cache et qu'il appellera sans doute la panthère rose. Il croisera le chemin de Danny Archer, un aventurier, et d'une journaliste. Et puis, ce trio hétéroclite devra naviguer entre loyauté, cupidité et rédemption. Une trame dramatique sur des thèmes dérangeants pour un film superbement mené. Le conseil de lecture, ce sera Panorama du cinéma fantastique français de Georges Méliès au jeune franc-tireur. Un livre d'Alain Chlokhoff. Alors, ce livre explore bien sûr le cinéma fantastique français à travers les décennies marquantes des années 30, 40, 60, 80 et 90, période durant lesquelles des réalisateurs comme Jean Cocteau, Georges Franju et plus tard Caro et Jeunet ont redéfini le genre du fantastique en France. Un très beau livre que vous trouvez aux éditions L'écran fantastique collection pour 29,90€. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Merci.
Et vous allez nous délivrer un conseil Blu-ray.
Oui, mon conseil Blu-ray, c'est Le Roi des Rois, film d'animation du réalisateur sud-coréen Seong Ho-jung. Il sort aujourd'hui une odyssée captivante et bouleversante avec ses couleurs lumineuses, sa fluidité, ses décors soignés, racontés comme une histoire du soir d'un père à son fils. Bien plus qu'un film sur la vie de Jésus, c'est donc avant tout un conte familial et vibrant, un voyage initiatique à retrouver pour 19,90€. Chez Sage Productions en Blu-ray et DVD. Et tenez Laurent, je vous l'offre.
Ah bah écoutez, échange de bons procédés, merci beaucoup.
Coucou chérie.
Là aussi, je vais me lancer. et je vais pas me tromper, Taishi Iwasaki a composé la bande originale du film Mamoru Hosoda, Scarlett et l'éternité, qui met en scène Scarlett, donc une princesse prisonnière d'un purgatoire. Elle vient tout juste d'être assassinée par son oncle, et elle fomente sa vengeance. Ah, terrible, terriblement réussi aussi, comme la musique d'ailleurs. Mot sur une avant-première exceptionnelle. Et oui, elle est exceptionnelle parce qu'elle est en présence d'Olivier Nakache, de Camille Cotin et de Louis Garrel. Et ça se passe où ? Au VO Cartoucherie. C'est pour ça qu'on le souligne, ce cinéma qui est ouvert depuis moins d'un an maintenant, hein, quelques mois à peine, et qui vendredi prochain, 13 mars, dès 18h30, vous invite donc à cette avant-première pour voir donc le film de Nakache et Toledano. Seulement Olivier sera là, pas Eric, juste une illusion. Alors ils insistent sur le fait que, vous savez, les salles du VO Cartoucherie ne sont pas des salles gigantesques, puisque c'est un cinéma qu'on pourrait qualifier de petit ensemble, hein,
cinéma de quartier.
Oui, voilà, exactement, un cinéma de quartier. Et donc, ils disent à tous les spectateurs qui prendront un billet que cette séance exceptionnelle se déroulera dans plusieurs salles, et que dans toutes les salles, ils auront l'occasion de voir Olivier Nakache, Camille Cotin et Louis Garrel de la même façon. Donc tout le monde sera traité de la même façon, tous au VO Cartoucherie pour découvrir.
Il y aura des hologrammes,
sûrement. Ouais. Non, mais ils bondiront de salle en salle.
Ça,
ah oui. Ah tiens, allez, on écoute un peu ça. Extrait du film de Mona Fassbender, Le Testament d'Anne Lee. Le Testament d'Anne Lee, c'est un film qui explore en chanson la figure de la chef des Shakers. Les Shakers étaient une secte religieuse britannique du 18e siècle. Et quand je dis explore en chanson, c'est bien le cas, puisque le film est une comédie musicale diablement bien troussé et tourné, avec Amanda Seyfried particulièrement convaincante. C'est elle qui chante. La musique est signée Daniel Blumberg pour le film de Mona Fassbender, Le Testament d'Anne Lee. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour Il Maestro, Scarlett et l'Éternité, Le Syndicat du Crime de John Woo, et revoir bien sûr Shining sur grand écran de Stanley Kubrick.
Il Maestro, Scarlett et l'Éternité, Le Crime du Troisième Étage, Traverse Vidéo jusqu'au 30 mars prochain, et puis Ciné Palestine jusqu'au 17 mars.
Et oui, alors tiens, avant de vous donner le coup de cœur, c'en est un aussi, il était déjà celui de la semaine dernière, pour moi, La Maison des Femmes de Mélissa Godet. Et il y a un ciné-parole avec Paul Dima et votre serviteur, mardi 17 mars prochain à 14h30 à l'ABC de Toulouse. Venez tous voir ce très beau film. Sinon, pour cette semaine, le film de Shirien Dabiz m'a particulièrement séduit, Ce qu'il reste de nous. Il Maestro aussi, d'Andrea Di Stefano, et puis revoir Shining et frissonner, c'est évident. Comment résister aussi à l'armée des 12 singes. Et pour partir, pour se quitter, Umberto Tozzi, en 80, il chantait ça. Toujours extrait d'Il Maestro, allez, on vous fait la bise. Restez fidèles à présence, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Cinq radios, un seul nom. Présence. La radio chrétienne de votre région. Présence, une idée qui fait son chemin. Écoutez Présence, c'est votre radio.